Chapitre 32. Port latéral.
Ils vivaient loin au-dessus d'un endroit qu'aucun homme ne pouvait atteindre, mais que tous pouvaient visiter. La cité de la tour elle-même, que la main d'aucun homme n'avait bâtie. Bien que le chant du dernier été soit une romance fictive du IIIe siècle après la Félonie, il s'agit certainement d'une référence valide dans ce cas-ci. Voir page 27 de la traduction de Varala et noter l'infratexte.
Il portait le pont sur le côté avec une efficacité croissante, mais pas de beaucoup. Kaladin regarda le pont 4 avancer maladroitement, manœuvrant le pont en l'inclinant latéralement. Fort heureusement, il y avait de nombreuses poignées sur le dessous et ils avaient trouvé comment les tenir de la manière adéquate. Ils devaient le porter à un angle plus réduit qu'ils ne l'auraient voulu, ce qui exposerait leurs jambes, mais peut-être parviendrait-il à les entraîner à ajuster l'angle lorsque les flèches pleuvraient. En l'état, ils avançaient lentement et tellement serrés que si les Parchendi parvenaient à faire tomber l'un d'entre eux, les autres trébucheraient sur lui. S'ils perdaient ne serait-ce que quelques hommes, l'équilibre serait assez perturbé pour qu'ils lâchent le pont, sans doute possible. « Il va falloir gérer ça très prudemment », se dit Kaladin. S'ils voltaient à la suite du groupe sous la forme d'un tourbillon de feuilles presque translucides, derrière elle, quelque chose attira le regard de Kaladin. Un soldat en uniforme qui menait un groupe d'hommes en loque formant une masse abattue. « Enfin !» se dit Kaladin. Il avait attendu un nouveau groupe de recrues. Il fit un geste sec en direction de Rock. Le manche-corne hocha la tête. Il allait se charger de l'entraînement. Il était temps de faire une pause de toute façon. Kaladin gravit en courant la petite pente située au bord du dépôt de bois et arriva alors même que Gaz interceptait les nouveaux arrivants.
« Quelle eau pitoyable !» dit Gaz. « Je croyais qu'on nous avait envoyé le fond du fond la dernière fois, mais cette bande-ci... »
La Marille haussa les épaules. « Ils sont à vous maintenant, Gaz. Répartissez-les comme bon vous semble. » Il se retira en compagnie de ses soldats, abandonnant les malheureux appelés. Certains portaient des vêtements corrects, ce devaient être des criminels récemment arrêtés. Les autres arboraient une marque d'esclave sur le front. Leur vue réveilla chez Kaladin des sentiments qu'il dut étouffer. Il se tenait toujours au sommet d'une pente abrupte. Un faux pas pouvait de nouveau le faire dégringoler dans ce désespoir.
« En rang, bande de crémillons !»
lança Gaz d'une voix brusque aux nouvelles recrues, tirant son gourdin qu'il se mit à agiter. Il mesura Kaladin du regard, mais ne dit rien. Le groupe s'empressa de s'aligner. Gaz passa la rangée en revue et choisit les membres les plus grands.
« Vous cinq ! Vous allez au pont 6, souvenez-vous-en. Si vous l'oubliez, je vous ferai fouetter. »
Il compta un autre groupe.
« Vous 6, au pont 14. Vous 4 au bout, pont 3. Vous et vous, pont 1. Le pont 2 n'a besoin de personne. Vous 4, pont 7. »
Ce fut tout. « Gaz, » dit Kaladin en croisant les bras. Syl atterrit sur son épaule et sa petite tempête de feuilles prit la forme d'une jeune femme. Gaz se tourna vers lui. Le pont 4 est descendu à 30 membres en mesure de se battre.
« Les ponts 6 et 14 en ont moins !»
Ils en avaient chacun 29, et vous venez de leur donner à tous les deux une grosse portion de nouveaux membres. Et le pont 1 en est à 37, et vous leur avez envoyé 3 nouveaux hommes.
« Vous n'avez quasiment perdu personne lors de la dernière course, et... »
Kaladin saisit Gaz par le bras, tandis que le sergent tentait de s'éloigner. Gaz tressaillit et leva son gourdin. « Essayez un peu, » songea Kaladin en soutenant le regard de Gaz. Il souhaita presque que le sergent le fasse. Gaz serra les dents.
« Très bien, un homme. »«
C'est moi qui le choisis, » dit Kaladin.
« Comme vous voulez, aucun d'eux ne vaut quoi que ce soit de toute façon. »
Kaladin se tourna vers le groupe de nouveaux hommes de pont. Ils s'étaient rassemblés en groupe selon l'équipe à laquelle Gaz les avait affectés. Kaladin reporta aussitôt son attention sur les hommes les plus grands. Selon les critères des esclaves, ils semblaient bien nourris. Deux d'entre eux donnaient l'impression de...
« Hé, Gancho !»
lança une voix depuis un autre groupe.
« Hé, c'est moi que vous voulez, je crois !»
Kaladin se retourna. Un homme petit et grêle lui faisait signe. Il ne possédait qu'un bras. Qui le désignerait comme homme de pont ? Il arrêterait une flèche, dit Kaladin. Certains hommes de pont ne servent qu'à ça, aux yeux des supérieurs. L'homme avait des cheveux bruns et la peau hâlée d'une nuance tout juste trop sombre pour être allaitie. Les ongles de sa main étaient couleur d'ardoise et cristallins. C'était un Nerdasien, dans ce cas. La plupart des nouveaux arrivants partageaient la même expression apathique. Mais cet homme souriait, alors même qu'il arborait une marque d'esclave sur le front. « Cette marque est ancienne, » songea Kaladin. Soit son précédent maître était généreux, soit il a réussi d'une manière ou d'une autre à ne pas se faire briser. Cet homme ne comprenait manifestement pas ce qu'il attendait en tant qu'homme de pont. Personne ne sourirait s'il le comprenait.
« Vous pouvez me prendre, » dit l'homme. « Nous autres, les Erdasiens, nous sommes d'excellents combattants en Gon. »
Il prononçait ce dernier mot « Gon » et semblait l'appliquer à Kaladin.
« Voyez-vous, à une occasion, j'étais avec trois hommes. Ils étaient sous, mais je les ai quand même battus. »
Il parlait à un rythme très rapide, et son accent épais fusionnait les mots. Il ferait un piètre homme de pont. Il serait peut-être capable de courir avec le pont sur les épaules, mais pas de le manœuvrer. Il semblait même un peu flasque au niveau de la taille. L'équipe de pont qui en hériterait, quelle qu'elle soit, le placerait juste à l'avant, le laisserait récolter une flèche, puis en serait débarrassé. « Il faut faire le nécessaire pour rester en vie », sembla chuchoter une voix de son passé, transformer un handicap en avantage. « Tien. »
« Très bien, » dit Kaladin en le montrant du doigt. « Je vais prendre ce Erdasien, au fond.
Quoi ?» s'écria Gaz.
Le petit homme se dirigea vers Kaladin d'un pas nonchalant.
« Merci, Gancho. Vous serez ravi de m'avoir choisi. »
Kaladin se détourna pour revenir sur ses pas et passa devant Gaz. Le sergent de pont se gratta la tête.
« Vous avez tellement insisté pour finalement prendre ce Naboo qui n'a qu'un bras !»
Kaladin continua à marcher sans un mot pour Gaz. Il se tourna plutôt vers le Erdasien manchot. « Pourquoi vouliez-vous venir avec moi ? Vous ne connaissez rien aux différentes équipes de pont. »
« Vous ne preniez qu'une seule personne, » répondit l'homme. « Ce qui signifie qu'un seul homme peut se distinguer. J'ai un bon pressentiment à votre sujet. Je le lis dans vos yeux, Gancho. »
Il marqua une pause.
« Qu'est-ce que c'est qu'une équipe de pont ?»
Kaladin se surprit à sourire face à son attitude nonchalante. « Vous verrez. Comment vous appelez-vous »«
Lopen, » dit l'homme. « Certains de mes cousins m'appellent le Lopen parce qu'ils n'ont jamais entendu personne d'autre porter ce nom. » J'ai souvent demandé autour de moi, peut-être à 100 ou 200, enfin beaucoup de gens en tout cas, et personne n'a jamais entendu ce nom. »
Kaladin cligna des yeux face à ce torrent de mots. Cet homme s'arrêtait-il jamais pour respirer ? Les hommes du pont 4 prenaient leur pause, et le pont massif reposait sur le côté en leur fournissant de l'ombre. Les 5 blessés les avaient rejoints et bavardaient. Même Leïten était debout, ce qui était encourageant. Il avait eu beaucoup de mal à marcher avec ses jambes broyées. Kaladin avait fait son possible, mais l'homme boiterait toujours. Le seul qui ne parlait pas aux autres était Dabid, l'homme que le combat avait plongé dans un tel état de choc. Il suivait les autres, mais ne parlait jamais. Kaladin commençait à craindre qu'il ne récupère jamais de son épuisement mental. Ober, l'homme au visage rond et aux dents manquantes qui avait reçu une flèche dans la jambe, marchait sans béquille. Il ne lui faudrait plus très longtemps avant de recommencer à porter les ponts. Ce qui était une bonne chose. Ils avaient besoin de toutes les paires de bras disponibles.
« Dirigez-vous vers cette baraque là-bas, » dit Kaladin à Lopen. « Il y a une couverture, des sandales et un gilet pour vous sur la pile tout au fond. »
Rock s'approcha de Kaladin et croisa les bras.
« Ces nouveaux membres ?»«
Oui, » répondit Kaladin.
« Le seul genre que Gaz voulait bien nous donner, j'imagine. »
Rock soupira.
Cette chose, nous aurions dû l'attendre. Il ne va nous fournir que les plis inutiles des hommes de pont à partir de maintenant. »
Kaladin fut tenté de répondre quelque chose pour lui donner raison, mais hésita. S'il y verrait sans doute un mensonge et en serait contrarié.
« Cette nouvelle façon de porter le pont, » dit Rock, « elle n'est pas très utile, je crois. Elle...
Il s'interrompit lorsqu'une sonnerie de cor retentit au-dessus du camp, résonnant contre les bâtiments de pierre comme le cri d'un magnocoque lointain. Kaladin se raidit. Ses hommes étaient de service. Il attendit, crispé, que résonne la troisième sonnerie.
« En rang !» hurla Kaladin. « Allons-y !»
Contrairement aux 19 autres équipes de service, ces hommes ne se mirent pas à courir dans le désordre le plus total, mais s'assemblèrent méticuleusement. Lopen ressortit précipitamment, vêtu d'un gilet, puis hésita, regardant les quatre escouades sans savoir où aller. Il se ferait tailler en pièces si Kaladin le plaçait à l'avant, mais il les ralentirait sans doute à n'importe quelle autre place.
« Lopen !» cria Kaladin.
L'homme à un bras fit un salut. « Est-ce qu'il se croit vraiment dans l'armée ?»«
Vous voyez ce tonneau d'eau de pluie ? Allez chercher quelques outres auprès des assistants du charpentier. Ils m'ont dit qu'on pouvait en emprunter quelques-unes. Remplissez-en autant que vous pourrez, puis rattrapez-nous en bas. »«
Entendu, Gancho !» dit Lopen.
« Levez le pont !» cria Kaladin en se mettant en place à l'avant. « Port sur l'épaule !»
Le pont 4 se mit en mouvement. Tandis que plusieurs des autres équipes de pont se rassemblaient autour de leur baraque, celle de Kaladin chargea à travers le dépôt de bois. Ils furent les premiers à descendre la pente et atteignirent le premier pont permanent avant même que l'armée se mette en rang. Là, Kaladin leur ordonna de reposer leur pont et d'attendre. Peu après, Lopen descendit le flanc de colline en trottinant, et, fait surprenant, Dabid et Ober l'accompagnaient. Ils ne pouvaient pas avancer vite, pas avec Ober qui boitait, mais ils avaient construit une sorte de civière à l'aide d'une bâche et de deux morceaux de bois. Une bonne vingtaine d'outres s'y trouvaient empilées. Ils rejoignirent l'équipe en trottinant.
« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Kaladin.
« Vous m'avez dit d'apporter tout ce que je pourrais porter, Egon, » répondit Lopen. « Eh bien, nous avons pris ça chez les charpentiers. Ils s'en servent pour transporter des morceaux de bois, ce qu'ils m'ont dit. Et vu qu'ils s'en servaient pas, on le leur a pris et maintenant nous voilà. Pas vrai, Bouclard ?»
Il avait adressé cette dernière question à Dabid, qui se contenta de hocher la tête.
« Bouclard ?» demanda Kaladin. « Ça veut dire muet !» répondit Lopen en haussant les épaules. « Vu qu'il n'a pas l'air de parler beaucoup, vous voyez ?»«
Je vois. Eh bien, bon travail. Pont 4, remettez-vous en place. » Voilà le reste de l'armée.
Les heures suivantes furent ce qu'ils avaient appris à attendre des courses au pont. Des conditions éreintantes à porter ce pont lourd d'un plateau à l'autre. L'eau se révéla une aide précieuse. L'armée abreuvait parfois les hommes de pont lors des courses, mais jamais autant qu'ils n'en avaient besoin. Être en mesure de boire après avoir traversé chaque plateau était aussi utile que d'avoir une demi-douzaine d'hommes en plus. Mais la véritable différence résultait de la pratique. Les hommes du pont 4 ne s'écroulaient plus d'épuisement chaque fois qu'ils reposaient un pont. Le travail restait difficile, mais leur corps y était préparé. Kaladin surprit plusieurs coups d'œil surpris ou envieux des autres équipes, tandis que ses hommes riaient et plaisantaient au lieu de s'effondrer. Courir en portant un pont une fois par semaine environ, comme le faisaient les autres hommes, ne suffisait pas. Un repas supplémentaire chaque soir, associé à l'entraînement, avait développé les muscles de ces hommes et les avait préparés à travailler. La marche était longue, l'une des plus longues que Kaladin ait jamais accomplie. Ils voyagèrent vers l'est pendant des heures. C'était mauvais signe. Lorsqu'ils se dirigeaient vers des plateaux plus proches, ils y arrivaient souvent avant les Parchendi. Mais à cette distance, ils couraient à toute vitesse dans le seul but d'empêcher les Parchendi de s'enfuir avec le cœur de gemme. Ils n'avaient aucune chance d'arriver avant l'ennemi. Par conséquent, l'approche serait difficile. « Nous ne sommes pas prêts pour le port latéral », songea Kaladin, nerveux, lorsqu'ils approchèrent enfin d'un énorme plateau tout en hauteur à la forme inhabituelle. Il en avait entendu parler. On le nommait la Tour. Aucune armée alétine n'y avait jamais remporté de cœur de gemme. Ils posèrent leur pont avant l'avant-dernier, le mirent en place, et Kaladin eut un pressentiment juste avant que les éclaireurs ne traversent. La tour était de forme triangulaire allongée, irrégulière, avec la pointe est qui s'élevait haut dans l'air, créant un flanc de colline escarpé. Sadeas avait amené un grand nombre de soldats. Ce plateau-ci était énorme et permettait donc que l'on déploie une armée plus grande. Kaladin attendit, inquiet. Peut-être aurait-il de la chance et les Parchendi seraient-ils déjà partis sans le cœur de Jem. C'était possible à cette distance. Les éclaireurs revinrent en courant.
« Lignes ennemies sur le bord opposé, ils n'ont pas encore ouvert la chrysalide !»
Kaladin gémit tout bas. L'armée se mit à traverser sur son pont, et le pont 4 le regarda, l'expression grave et lugubre. Il savait ce qui allait suivre. Certains d'entre eux, peut-être beaucoup, ne survivraient pas. Ce serait terrible cette fois-ci. Lors des courses précédentes, ils disposaient d'une marge. Lorsqu'ils avaient perdu 4 ou 5 hommes, ils parvenaient malgré tout à continuer. À présent, ils couraient avec 30 hommes à peine. Chaque homme qu'ils perdraient les ralentirait considérablement, et la perte de ne serait-ce que 4 ou 5 de plus les ferait vaciller, voire même basculer. Quand ça se produirait, les Parchendi concentreraient tout sur eux. Il avait déjà vu la chose se produire. Si une équipe de pont commençait à chanceler, les Parchendi se jetaient dessus. Par ailleurs, quand une équipe de pont était visiblement en effectif réduit, les Parchendi la ciblaient toujours pour l'abattre. Le pont 4 était en difficulté. Cette course pouvait aisément se terminer par 15 ou 20 morts. Il fallait agir. Le moment était venu.
« Rassemblez-vous tout près !» leur dit Kaladin.
Les hommes s'avancèrent vers lui, l'air pensif. « Nous allons porter le pont en position latérale, » dit-il tout bas. « Je vais y aller le premier. Je vais diriger. Tenez-vous prêt à aller dans la même direction que moi. »«
Kaladin, » dit Teft, « la position latérale est lente.
C'était une idée intéressante, mais est-ce que vous me faites confiance, Teft ?» demanda Kaladin.
« Oui, je crois. »
L'homme grisonnant regarda les autres. Kaladin voyait que beaucoup d'entre eux n'avaient pas confiance en lui, du moins pas complètement.
« Ça va fonctionner, » dit Kaladin avec assurance. « Nous allons utiliser le pont comme bouclier pour bloquer les flèches. Nous devons nous précipiter à l'avant, plus vite que les autres ponts. Ce sera difficile de les dépasser en port latéral, mais c'est ma seule idée. Si ça ne fonctionne pas, je me trouverai à l'avant et je serai donc le premier à tomber. » « Si je meurs, passez le pont en port à l'épaule. Nous nous sommes entraînés à ça, et alors, vous serez débarrassés de moi. »
Les hommes de pont gardèrent le silence.
« Et si nous n'avons pas envie d'être débarrassés de vous ?»
demanda Natam au visage allongé. Kaladin sourit. « Alors courez vite et suivez mes instructions. Je vais nous faire prendre un tournant inattendu pendant la course. Tenez-vous prêts à changer de direction. »
Il retourna au pont. Les soldats ordinaires l'avaient franchi et les Palziris, parmi lesquels Sadeas, vêtu de sa cuirasse d'éclat ornée, le traversaient à cheval. Kaladin et le pont 4 le suivirent, puis tirèrent le pont derrière eux. Ils le portèrent à l'épaule jusqu'à l'avant de l'armée et le reposèrent en attendant que les autres ponts se mettent en place. Lopen et les deux autres porteurs d'eau restèrent en arrière avec Gaz. Il ne semblait pas devoir s'attirer d'ennui pour ne pas avoir couru. C'était une petite bénédiction. Kaladin sentit la sueur perler sur son front. Il distinguait à peine les rangs des Parchendi devant eux, de l'autre côté du gouffre. Des hommes noirs et cramoisis, tenant prêts leurs arcs courts, flèches encochées. La pente énorme de la tour se dressait derrière eux. Le cœur de Kaladin se mit à battre plus fort. Des sprennes d'anticipation jaillissaient autour des membres de l'armée, mais pas de son équipe. Il n'y avait pas non plus de sprennes de peur, ce qui était tout à leur honneur. Non qu'ils n'éprouvent pas la peur, mais ils étaient moins affolés que les autres équipes de pont, qui attiraient donc les sprennes à leur place.
Ressentir les choses, sembla lui murmurer Tux depuis le passé. La clé du combat, ce n'est pas l'absence de passion, c'est la passion contrôlée. Il faut vouloir gagner. Se soucier de ceux que vous défendez. Il faut se soucier de quelque chose.
Je me soucie de tout ça, se dit Kaladin. C'est sans doute d'une bêtise de tous les vents, mais c'est la vérité.
Levez les ponts !
La voix de Gaz résonna à travers les premières lignes, répétant l'ordre que lui avait donné Lamaril. Le pont 4 se mit en mouvement et s'empressa de tourner le pont sur le côté et de le hisser. Les hommes les plus petits formaient une ligne, tenant le pont sur leur droite
et les plus grands formaient derrière eux une ligne compacte, soulevant ou soutenant le pont. Lamaril les regarda d'un air sévère, et Kaladin eut le souffle coupé. Gaz s'avança pour chuchoter quelque chose à Lamaril. Le Paliris hocha lentement la tête, mais ne dit rien. Le signal de l'attaque retentit. Le pont 4 chargea. Surgit de derrière eux, une vague de flèches vola par-dessus la tête des équipes de pont pour retomber vers les Parchendi. Kaladin courut, mâchoire serrée. Il avait du mal à s'empêcher de trébucher sur les boutons de roche et les formations de schiste écorce. Fort heureusement, bien que son équipe soit plus lente que d'ordinaire, sa pratique et son endurance la rendaient malgré tout plus rapide que les autres. Avec Kaladin à sa tête, le pont 4 parvenait à prendre de l'avance. Ce qui avait son importance, car Kaladin orienta son équipe légèrement sur la droite, comme si elle était très légèrement déviée avec le lourd pont sur le côté. Les Parchendi s'agenouillèrent et se mirent à chanter. Des flèches alétis tombèrent parmi eux, détournant l'attention de certains, mais les autres levèrent leurs arcs. « Tenez-vous prêts, » songea Kaladin. Il redoubla d'efforts et éprouva un soudain afflux de puissance. Ses jambes cessèrent de forcer, sa respiration d'être sifflante. C'était peut-être l'anxiété du combat ou l'engourdissement qui s'installait. Mais cette force inattendue lui procura une légère sensation d'euphorie. Il avait le sentiment que quelque chose vibrait en lui, qui se mêlait à son sang. À cet instant, il eut la sensation qu'il tirait le pont derrière lui à lui tout seul, comme une vague tirant le navire derrière elle. Il tourna plus loin sur la droite, courant à un angle plus prononcé, se plaçant ainsi que ses hommes en pleine vue des archers Parchendi. Les Parchendi continuèrent à chanter, sachant curieusement, sans recevoir d'ordre, quand tirer leur arc. Ils tirèrent des flèches contre leurs joues marbrées, visant les hommes de pont. Comme prévu, beaucoup ciblèrent ces hommes. Presque assez près, plus que quelques battements de cœur. Maintenant, Kaladin tourna vivement sur la gauche à l'instant même où les Parchendi tiraient. Le pont bougea avec lui, chargeant à présent avec l'avant du pont tourné vers les archers. Les flèches volèrent, s'abattirent contre le bois et s'y plantèrent. Quelques flèches crépitèrent contre la pierre qu'ils foulaient. Le pont résonnait de leur impact. Kaladin entendit des hurlements de douleur désespérés provenant des autres équipes de pont. Des hommes tombaient, dont certains n'en étaient sans doute qu'à leur première course. Au sein du pont 4, personne ne cria. Personne ne tomba. Kaladin fit de nouveau tourner le pont pour courir en biais dans l'autre sens, exposant de nouveau ses hommes. Les Parchendi, surpris, encochèrent leurs flèches. En temps normal, ils tiraient par vagues, ce qui fournit une occasion à Kaladin, car dès que les Parchendi eurent tiré leurs flèches, il pivota, utilisant le pont massif comme bouclier. De nouveau, les flèches se plantèrent dans le bois. De nouveau, les autres équipes de pont hurlèrent. De nouveau, la course en zigzag de Kaladin protégea ses hommes. « Plus qu'une fois, » songea Kaladin. Ce serait le plus dur. Les Parchendi sauraient ce qu'ils faisaient. Ils seraient prêts à tirer une fois qu'ils tourneraient. Il tourna. Personne ne tira. Stupéfait, il s'aperçut que les archers Parchendi avaient reporté toute leur attention sur les autres équipes de pont, en quête de cibles plus faciles. L'espace situé devant le pont 4 était pratiquement vide. Le gouffre était proche et, malgré sa position oblique, Kaladin réussit à obtenir de son équipe qu'elle place son pont au bon endroit. Ils devaient tous être alignés très près les uns des autres pour que la charge de cavalerie fonctionne. Kaladin donna rapidement l'ordre de lâcher. Plusieurs des archers Parchendi reportèrent de nouveau leur attention sur eux, mais la plupart les ignorèrent et tirèrent leurs flèches sur les autres équipes. Un grand bruit dans leur dos annonça la chute d'un pont. Kaladin et ses hommes redoublèrent d'efforts, tandis que les archers alétis derrière eux les bombardaient pour les empêcher de repousser le pont. Sans cesser de pousser, Kaladin risqua un coup d'œil par-dessus son épaule. Le pont suivant de la file était proche, c'était le pont 7, mais l'équipe faiblissait tandis que les flèches la frappaient l'une après l'autre, fauchant les hommes par rang. Ils tombèrent sous les yeux de Kaladin, et le pont s'effondra sur les pierres. À présent, le pont 27 flanchait. Deux autres étaient déjà à terre. Le 6 avait atteint le gouffre, mais de justesse,
après avoir perdu plus de la moitié de ses membres. Où étaient les autres équipes? Ce coup d'œil rapide ne lui permettait pas de s'en rendre compte, et il devait revenir à son travail. Les hommes de Kaladin placèrent leur pont avec un bruit sourd, et Kaladin donna l'ordre de se retirer. Ses hommes et lui s'écartèrent à la hâte pour laisser charger la cavalerie. Mais elle ne vint pas. En nage, Kaladin se retourna. 5 autres équipes avaient posé leur pont, mais d'autres s'efforçaient toujours d'atteindre le gouffre. Contre toute attente, ils avaient tenté d'incliner leur pont pour bloquer les flèches, imitant Kaladin et son équipe. Beaucoup trébuchaient, car certains des hommes tentaient de baisser le pont pour se protéger, tandis que d'autres continuaient à courir droit devant eux. C'était le chaos. Ces hommes ne s'étaient pas entraînés au port latéral. Alors qu'une équipe tentait de lever son pont dans la nouvelle position, elle le laissa tomber. 2 autres équipes se firent entièrement abattre par les Parchendi, qui tiraient toujours. La cavalerie lourde chargea, traversant les 6 ponts qui avaient été posés. En temps ordinaire, avec 2 cavaliers de front, on se retrouvait avec une masse de 100 cavaliers, 30 à 40 en longueur, 3 rangées de large, ce qui nécessitait un grand nombre de ponts alignés, permettant ainsi une charge efficace contre les centaines d'archers Parchendi. Mais les ponts avaient été posés de manière trop irrégulière. Une partie de la cavalerie traversa, mais elle était éparpillée et ne pouvait charger les Parchendi sans craindre de se retrouver cernée. Les fantassins avaient entrepris d'aider à pousser le pont 6 en place.
« Nous ferions mieux d'aller les aider, » comprit Kaladin. « Faites traverser ces autres ponts. »
Mais il était trop tard. Alors même que Kaladin se tenait près du champ de bataille, ses hommes, comme ils s'y étaient entraînés, avaient reculé jusqu'à l'affleurement rocheux le plus proche pour s'y abriter. Celui qu'ils avaient choisi était assez proche pour voir le combat, mais bien protégé des flèches. Les Parchendi ignoraient toujours les hommes de pont après l'attaque initiale, bien que les Aleti prennent soin de laisser une arrière-garde pour protéger le point d'arrivée et guetter les Parchendi cherchant à leur couper la retraite. Les soldats manœuvrèrent enfin pour mettre le pont 6 en place, et 2 autres équipes posèrent le leur, mais la moitié des ponts n'était pas arrivée à destination. L'armée avait dû se réorganiser pendant la course, fonçant vers l'avant pour soutenir la cavalerie, se séparant pour traverser là où les ponts avaient été posés. Teft laissa l'affleurement et saisit Kaladin par le bras pour l'attirer vers un abri relatif. Kaladin se laissa entraîner, mais il regardait toujours le champ de bataille, en proie à une soudaine révélation. Rock alla se placer près de Kaladin et lui asséna une tape sur l'épaule. La sueur collait les cheveux du grand manche-corne à son crâne, mais il affichait un grand sourire.
« C'est miracle ! Pas un seul homme blessé !»
Moash les rejoignit.
« Père des tempêtes, je n'en reviens pas de ce qu'on vient de faire. Kaladin, vous avez transformé à jamais les courses au pont. »
« Non, » dit doucement Kaladin, « j'ai complètement désorganisé notre attaque. »«
Je... quoi ?»«
Père des tempêtes, » se dit Kaladin. La cavalerie lourde avait été perturbée. Une charge de cavalerie nécessitait une ligne ininterrompue. C'était l'intimidation avant toute chose qui assurait son succès. Mais ici, les Parchendi pouvaient s'esquiver hors d'atteinte, puis attaquer les cavaliers depuis les flancs, et les fantassins n'étaient pas arrivés assez vite pour les aider. Plusieurs groupes de cavaliers se battaient complètement encerclés. Les soldats s'agglutinaient autour des ponts qui avaient été posés, cherchant à traverser. Mais les Parchendi avaient une prise solide et les repoussaient. Des lanciers tombèrent des ponts, et les Parchendi réussirent alors à faire basculer un pont tout entier dans le gouffre. Les soldats Aleti se retrouvèrent bientôt sur la défensive et se concentrèrent sur la défense des têtes de pont pour assurer un chemin de retraite pour la cavalerie. Kaladin regarda. Regarda réellement. Il n'avait jamais étudié la tactique ni les besoins de l'armée entière lors de ses attaques. Il n'avait réfléchi qu'aux besoins de sa propre équipe. C'était une erreur stupide et il aurait dû avoir davantage de bon sens. Il en aurait eu. S'il s'était toujours considéré comme un véritable soldat. Il détestait sa déesse. Il détestait la façon dont cet homme utilisait ses équipes de pont. Mais il n'aurait pas dû modifier la tactique de base du pont 4 sans réfléchir à la perspective plus large de la bataille.
« J'ai détourné l'attention sur les autres équipes de pont, » songea-t-il, « ce qui nous a fait arriver trop tôt en ralentissant une partie des autres. »
Et, comme il avait couru à l'avant, beaucoup d'autres hommes de pont avaient vu clairement comment il utilisait le pont comme bouclier. Ce qui les avait poussés à imiter le pont 4. Les équipes s'étaient mises à courir à différentes vitesses, et les archers Aletti n'avaient pas su où concentrer leurs volées pour affaiblir les Parchendi afin de pouvoir poser les ponts.
Père des tempêtes, je viens de faire perdre cette bataille à Sadeas.
Il y aurait des répercussions. Les hommes de pont avaient été oubliés tandis que les généraux et capitaines révisaient précipitamment leur plan de bataille. Mais une fois que tout ça serait terminé, il viendrait le chercher. À moins que ça ne se produise plus tôt. Gaz et Lamaril, avec un groupe de lanciers réservistes, se dirigeaient d'un pas énergique vers le pont 4. Rock alla se placer d'un côté de Kaladin, un Teft nerveux de l'autre côté, une pierre dans les mains. Derrière Kaladin, les hommes de pont se mirent à marmonner. « Retirez-vous, » dit tout bas Kaladin à Rock et à Teft.
« Mais Kaladin, » répondit Teft, « il retirez-vous. Rassemblez les hommes de pont, ramenez-les au dépôt de bois sains et saufs si vous y arrivez. »
« Si un seul d'entre nous échappe à cette catastrophe. » Comme Rock et Teft ne reculaient pas, Kaladin s'avança. La bataille faisait toujours rage sur la tour. Le groupe de Sadeas, mené par le porte-éclat en personne, était parvenu à reprendre une petite portion de terrain et s'y accrochait furieusement. Des cadavres s'empilaient des deux côtés. Ça ne suffirait pas. Rock et Teft allèrent de nouveau se placer aux côtés de Kaladin, mais il leur lança un regard mauvais pour les obliger à reculer. Puis il se tourna vers Gaz et Lamaril.
« Je répondrai que c'est Gaz qui m'a dit de faire ça, » songea-t-il. Il m'a suggéré de recourir au port latéral lors des courses au pont.
Mais non, il n'y avait pas de témoin. Ce serait sa parole contre celle de Gaz. Ça ne fonctionnerait pas. Et puis cet argument fournirait à Gaz et à Lamaril de bonnes raisons de s'assurer immédiatement de la mort de Kaladin, avant qu'ils puissent parler à leur supérieur. Kaladin devait trouver autre chose.
« Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait ?»
cracha Gaz à son approche. « J'ai bouleversé la stratégie de l'armée, » répondit Kaladin. « J'ai désorganisé toute l'attaque. Vous êtes venu me punir de sorte que quand vos supérieurs viendront vous hurler dessus à cause de ce qui s'est passé, vous puissiez au moins montrer que vous avez réagi vite pour vous occuper du responsable. » Gaz hésita, tandis que Lamaril et les lanciers s'arrêtaient autour de lui. Le sergent de pont semblait surpris.
« Pour ce que ça vaut, » reprit Kaladin d'un air lugubre, « je ne savais pas que les choses se passeraient ainsi. Je cherchais simplement à survivre. »
« Les hommes de pont ne sont pas censés survivre, » dit Lamaril d'une voix brusque. Il fit signe à deux de ses soldats, puis désigna Kaladin. « Si vous me laissez en vie, » dit Kaladin, « je promets d'informer vos supérieurs que vous n'aviez rien à voir avec tout ça. Si vous me tuez, vous donnerez l'impression d'avoir cherché à cacher quelque chose. »«
Cacher quelque chose ?»
répéta Gaz en regardant du côté de la bataille au niveau de la tour. Une flèche isolée tomba sur les pierres non loin de lui, et sa tige se brisa.
« Qu'est-ce que nous aurions à cacher ?»«
Ça dépend. Tout ça pourrait très bien donner l'impression d'avoir été votre idée depuis le départ. »«
Clarissime Lamaril, vous ne m'en avez pas empêché. Vous l'auriez pu ?» Mais vous ne l'avez pas fait. Et les soldats vous ont vu parler avec Gaz quand vous avez compris ce que je faisais. Si je ne peux pas attester que vous ignoriez ce que vous alliez faire, alors ça donnera une très, très mauvaise impression.
Les soldats de Lamaril regardèrent leur chef. Le Paliris se renfrogna. « Battez-le, » leur dit-il, « mais ne le tuez pas. » Puis il se retourna, et rejoignit d'un pas vif les lignes de réserve Aletti. Les robustes lanciers se dirigèrent vers Kaladin. Ils étaient sombres iris, mais auraient tout aussi bien pu être Parchendi, étant donné la compassion qu'ils lui témoigneraient. Kaladin ferma les yeux et s'arma de courage. Il ne pouvait pas tous les combattre, pas s'il voulait rester avec le pont 4. Un coup de la hampe d'une lance en plein ventre le fit tomber à terre, le souffle coupé. Et les soldats se mirent à le rouer de coups de pied. Une botte ouvrit la bourse qu'il portait à la ceinture.
ses sphères, trop précieuses pour qu'il les laisse à la baraque, s'éparpillèrent sur les pierres. Elles avaient perdu leur fulgiflamme sans qu'il sache bien comment, et elles étaient à présent éteintes, toute vie les ayant désertées. Les soldats continuèrent à frapper.